Le Space Cast
avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.
Hey, sans joke, si vous avez manqué ça tantôt, là, le reportage du chum Jordan, vous devez absolument vous retaper ça. Premièrement, pour des motifs humanitaires. Et deuxièmement, parce que vous êtes juste pas prêt.
C'est quand même un gros scoop. Là,
ah oui, vraiment.
C'est une bombe dans le monde du hockey.
Oui. Si vous vous intéressez un peu à la série Entre les sabres et le Canadien, www.radiox.com, des alentours de 10h, 10h05 tantôt. Là, l'extrait va être disponible tantôt. Dans un autre ordre d'idée, oui, les joueurs du Canadien, les joueurs qui sont en série actuellement sont... c'est ça qui est beau aussi avec le hockey de playoff. C'est l'idée de se dépasser, de donner le deuxième puis le troisième effort. Puis quand on parle avec des gens qui partent à l'aventure, montent des montagnes ou se lancent dans des traversées de l'Atlantique en chaloupe, tu sais, ça revient au même principe. T'sais. Là, c'est juste que les autres, mettons notre prochaine invitée, elle s'est pas faite donner de coup de bâton par Tage Thompson. C'est pas arrivé, mais elle a eu à se dépasser d'une autre manière complètement. C'était elle versus elle-même, elle versus la nature. Puis en fait, je vais la laisser nous expliquer son dernier périple et les conditions, comment tout ça s'est passé, parce qu'on s'en va rejoindre une fille avec qui on a déjà discuté, une fille que j'avais beaucoup aimée. C'est une femme de défi, une alpiniste dans le corps. On va aller rejoindre Marie-Pierre Desharnais qui est au bout du fil. Salut Marie-Pierre.
Hey, salut les gars. Ça fait plaisir de vous reparler. Merci pour l'invitation.
Ça va bien?
Oui, ça va super bien. Je me remets doucement. J'atterris émotionnellement de ma dernière épopée. Ça a été toute une aventure.
Oui, mais écoute, on va en parler de ce mont qui est le Katmandou, parce que là, toi, tout ce qui est...
Le
Makalu?
Oui.
Là, le
Makalu, c'est la ville.
Ah, c'est pareil.
Okay, ben,
c'est quelques syllabes près.
Le Makalu. OK, ben écoute, justement, parle-moi-en quand t'arrives là-bas à Katmandou. Moi, c'est pour ça que j'ai retenu ça, parce que Katmandou, c'est la capitale politique puis religieuse du Népal. Quand t'arrives sur les lieux, c'est comment? Avant de parler de la montagne en tant que telle.
Bien, il faut dire que je suis allée, moi, déjà à peu près une vingtaine de fois au Népal, donc c'est pas vraiment du nouveau pour moi. C'est un pays que j'adore, un pays qui est bouddhiste, un pays qui a une vibe vraiment, vraiment unique. Puis moi, je trouve que, je pense que ce qui m'émeut encore, parce que je reviens, puis à chaque fois que je reviens du Népal, même si je suis allée plusieurs fois, je suis touchée, je pense que c'est les gens là-bas. Je trouve que les gens, ils embody, ils représentent, en fait, ce à quoi, je pense, nous, on aspire à devenir toute une vie, tout l'effet de toute l'idée d'être consciemment présent, d'être
serein,
là, d'être bon, exact. Eux, c'est comme s'ils naissent dans cette espèce de climat, de culture-là, puis ils sont juste, je pense, sans même qu'on puisse se comprendre, qu'on puisse se parler, ils ont une façon d'être qui, moi, m'émeut à chaque fois, là, puis chaque fois que je reviens là, je me dis, oh my God, il faudrait que je m'y mette, que je strive à devenir une personne comme ça un peu plus chaque jour.
Faut que je fasse de la méditation.
Ouais, exactement. Puis tu sais, c'est un peu pour ça aussi que je fais de l'alpinisme. C'est une manière un peu de méditer, parce que Dieu sait que moi, méditer puis arrêter le cerveau dans ma vie de tous les jours, j'ai pas mal de misère à faire ça. Mais eux, c'est comme si vraiment ils prennent le temps de vivre, puis ils prennent le temps d'être bons les uns envers les autres, puis sont des tellement des belles personnes que je pense que c'est ça aussi beaucoup qui m'attire, moi, au Népal.
OK. Le Makalu, ça représente quoi comme défi? T'sais, pourquoi tu t'es dit, c'est avant même d'y aller, pourquoi tu as ciblé cette montagne-là? Qu'est-ce qu'elle représente comme défi? Puis pourquoi l'avoir choisi celle-là?
Bien, faut que je sois honnête avec vous. Le Makalu, c'était pas nécessairement l'objectif que j'avais en tête. Moi, je partais au Népal d'abord et avant tout pour accompagner un groupe jusqu'au camp de base de l'Everest, puis ensuite jusqu'au sommet d'une montagne de 6000 mètres qui est située juste à côté de l'Everest. Et donc ça, c'était un trip qui allait prendre à peu près près de 3 semaines. Et puis évidemment, ben j'allais déjà être acclimatée à une altitude de 6000 quelques mètres. Et on sait que quand on grimpe une montagne de 8000 mètres, ce qui prend prend le plus de temps, de ressources de temps, d'énergie et financière, ben c'est de s'acclimater à l'altitude. Fait qu'autrement dit, quand tu finis un trip comme ça, tu es déjà acclimaté, puis ça te tente pas trop de gaspiller ton acclimatation qui t'a pris 3 semaines à bâtir. Fait que je me suis dit, je pars au Népal, accompagner ce groupe-là. J'ai 3 montagnes qui me trottent dans la tête, le Dholagiri, le Makalu et le Lhotse. Et je vais voir, en fonction des conditions du moment, quand je vais finir mon accompagnement, quelle montagne qui est la plus propice au niveau des conditions météo, au niveau de la route qui a été fixée jusqu'au sommet, tout ça, qu'est-ce qui est le plus propice. Et puis, quand j'ai terminé mon trip, ben c'était le Makalu. Qui restait la montagne la plus faisable là, dans les temps que je m'étais allouée. Moi, je voulais revenir. Je m'étais mis en tête de revenir chez moi vers la mi-mai. Okay. Et puis, donc, c'était le Makalu qui cadrait avec ça.
Est-ce que tu apportes le même gear là, pour faire une montagne, mettons, de 6000 mètres ou tu avais apporté ton gear en plus, vraiment en prévision là, d'aller faire un gros 8000 mètres?
Non, exactement, comme tu l'as ciblé. Moi, j'avais mon duffel pour ma montagne de 6000, puis j'avais mon gros sac pour ma montagne 8000 avec mes grosses bottes, mon soude d'astronaute, puis tout le kit des collations, des vivres, de l'équipement additionnel. Et puis, j'avais mis ça en réserve à Katmandou avec les personnes qui s'occupent de ma logistique. Puis, eux, dans le fond, ils étaient on call après mon expert avec mes clients. Je leur disais quelle montagne j'ai ciblée. C'est sûr qu'on était en communication tout le long de mon expédition avec mes clients, justement, pour décider là, quelle montagne qui s'offrait la mieux. Et puis là, c'est ça, à la dernière minute, j'ai choisi de me rendre au Makalu, qui est une montagne, moi, que j'avais déjà ciblée l'année passée. Puis finalement, à la dernière minute, j'avais changé d'idée. J'avais décidé de partir sur le Kanchenjunga parce que je le sentais pas trop. La montagne, elle m'allumait pas tant que ça. Elle m'excitait pas tant que ça. Puis bref, c'est une montagne qui me restait en tête un peu comme pas un finish business, mais qui me trottait dans la tête comme étant une piste potentielle. Et puis, je me suis rendue sur le Makalu. Puis, j'étais excitée, mais je peux pas dire que j'avais le feu autant comme les autres montagnes que j'ai faites avant, comme l'Everest, comme le K2. Et puis, je me suis fait assigner un Sherpa que je connaissais pas. C'était la première fois que je grimpais avec lui. Okay. Et puis, ce Sherpa-là, il parlait pas du tout anglais. Et donc, comme j'étais toute seule à grimper avec lui, one-on-one, sans leader, sans grosse équipe autour de moi, ben c'est une situation qui m'a mis assez insécure dès le départ, si je peux dire. Je me suis entourée d'autres grimpeurs, justement, pour essayer d'un peu contrer ça. Mais les autres grimpeurs ont pas toffé la run. Ils se sont mis à tomber comme des mouches et à faire demi-tour, à quitter l'expédition, tout ça. Ça fait que rapidement, je me suis trouvée toute seule avec mon Sherpa. Et puis, c'est pas quelque chose qui m'a vraiment... C'est dérangé tant que ça pendant la première phase de l'ascension. La première phase, ça constitue juste à s'acclimater davantage à l'altitude. Donc, je me suis rendue au camp 2. J'ai passé quelques nuits là-bas. Puis le but, c'était de redescendre avant d'attendre pour une éventuelle fenêtre météo pour un semi de push plus tard. Donc, ça, c'était correct de faire cette phase-là avec lui. Okay. Sauf qu'il a commencé à avoir des situations où, la météo est devenue de plus en plus incertaine. Il y avait un autre groupe de Québécois aussi qui était sur la montagne à ce moment-là, qui ont décidé de faire demi-tour à cause justement des conditions peu propices. Donc,
Marie-Pierre, quand vous faites des expéditions de la sorte, est-ce que faire du guettage météo fait partie de la chose en vue de préparer? T'sais, est-ce que vous cherchez une fenêtre d'opportunité ou bien c'est tant pis, on y va puis il arrivera ce qui arrivera?
Ah non, écoute, ça devient là 200% de ce qui occupe notre cerveau, ça devient obsessionnel, ça devient, écoute, on monitore là des outils, des tools, on a des plateformes qui comparent 4 différents outils, et puis là ça devient là un jeu là de décision là impossible. On se met à parler aux autres équipes qui eux ont décidé de suivre un autre outil météo, et puis là ça devient vraiment obsessionnel là. Okay. C'est la seule chose qui occupe notre esprit, et puis c'est ce qui est arrivé en fait. Moi, je suis partie en semi de push, et puis on pensait avoir une fenêtre météo qui serait assez longue, et puis rapidement, la météo a changé du tout au tout, des rafales, quelque chose d'impossible. Je me suis ramassée avec le visage tout brûlé par le vent à cause que pendant l'ascension, je veux dire, à un moment donné, il faut que tu choisisses entre continuer de grimper ou juste te protéger des éléments. À un moment donné, tu peux pas tout faire.
Puis dans ces moments-là, dans ces moments-là, ton Sherpa, qui parle en langage des signes, malheureusement, parce qu'il y a une barrière de langue, il est comment? Lui, il est-tu couille d'acier? On continue ou il est en mode? Elle veut se tuer, ce fille-là? T'sais, c'est comment que lui il a l'air de dealer avec la météo?
Non, ben c'est sûr qu'ils sont affectés autant que nous. C'est juste qu'ils ont
un contrat, puis une famille à nourrir.
Ils sont plus habitués. Puis l'affaire, c'est que l'altitude les affecte un peu moins parce que justement, ils sont prédisposés à vivre dans des conditions plus extrêmes au niveau de l'altitude que nous. Là, ils ont été adaptés physiologiquement à ça. Puis sont aussi, ils vivent plus longtemps en altitude que nous, donc ça les affecte moins. Sauf que n'empêche qu'ils sont humains aussi, puis le froid les affecte, la fatigue les affecte aussi. Mais mettons qu'ils ont une attitude un peu plus impassible. Ça paraît un peu moins dans leur face que nous, mettons. Okay. Mais bon, eux, ils sont là pour nous accompagner, ils sont là pour nous aider, tout ça. Mais c'est sûr que tout ce qui est question de lire la météo, d'avoir accès à des technologies, moi, j'avais mon Starlink justement pour m'assurer de rester à l'affût, tout ça. Mais ça en revenait à ma responsabilité, à moi. Fait qu'ils vont un peu avec les décisions qu'on prenne, puis ils nous accompagnent là-dedans. Mais à un moment donné, tu sais, quand j'ai pris la décision, moi, de revirer de bord au camp 3, là, je peux te dire qu'il n'y a pas négocié. Il était bien content, mais on voyait bien que ça le faisait pas.
À quel point le Sherpa, dans des expéditions comme ça, avec quelqu'un d'expérimenté comme toi, si c'est toi qui prends les décisions, vous n'êtes même pas capable de communiquer dans la même langue, à quel point il est vraiment essentiel? Est-ce que tu en prends un parce que la loi l'exige là-bas ou vraiment tu en as besoin?
J'allais te poser la même question, puis je rajoute à ta question, Louis, comparerais-tu un Sherpa à l'intelligence artificielle? Tu n'es pas tout le temps en train de bander avec l'intelligence artificielle, mais tu le sors quand tu en as besoin.
C'est une bonne question. Je me suis jamais fait poser ça. Je pense que ça va plus loin que ça parce que quand même le contact humain, le fait de sentir une présence, on partage l'attente à deux. Il y a physiquement là une chaleur qui est dégagée quand tu es dans des conditions comme ça au froid. Puis tu fais en sorte que de partager l'attente avec un humain, ça aide aussi beaucoup. Mais au-delà de ça, c'est que physiquement, les charges à porter sont très, très lourdes. Moi, pour ma part, j'avais choisi de faire l'ascension, le reste de l'ascension avec de l'oxygène supplémentaire. Donc, il m'aidait à porter les bouteilles, tout ça. Je pense que ça va vraiment plus au-delà que d'utiliser juste quand on a besoin. Je pense que c'est une présence, c'est un confort, ça amène une certaine paix puis une quiétude. Puis, tu sais, ils sont extrêmement forts. Les gars, ils peuvent communiquer entre eux aussi en situation d'urgence. Ils se connaissent tous sur la montagne. Ils ont les radios aussi. Donc, pour ce qui est des appels au secours en cas de besoin, avec les hélicos, tout ça, ça va se faire en langage népalais. Donc, ça va vraiment beaucoup plus loin là, que juste une aide en cas de besoin.
Je sais qu'il y a des auditeurs qui se le demandent, fait que je vais te le demander. Coucher d'une montagne avec un gars que tu connais pas tout seul, d'une tente. Y a-tu un moment où tu t'es dit, hey, ma mère serait pas faite. Elle me dirait de me méfier. Il y a des red flags qui. Quoi qu'on est. Tu sais, je veux dire, parler pour se comprendre, un viol en montagne, c'est un peu élevé. Y a-tu un moment où tu as eu peur?
Non, mais c'est quelque chose, moi, dans ma vie d'alpiniste ou dans ma carrière où c'est récurrent comme thème. Il y a toujours un certain moment, un malaise, surtout quand j'apprends à connaître quelqu'un, un nouveau Sherpa. Où je suis très, très, pas craintive, mais tu sais, je fais attention. Puis il y a des situations où c'est juste comme là, en pleine tempête, au camp 3, c'est juste physiquement pas possible de sortir de la tente puis aller aux toilettes. On utilise des bouteilles pour faire pipi. Donc, tu demandes l'un à l'autre de tourner, de te cacher, tu fais ce que tu as à faire, tu utilises ton sleeping bag pour te cacher, tout ça. Il y a eu des moments, je pense, j'ai entendu des histoires d'horreur où il y a des Sherpas qui ont essayé de prendre avantage des alpinistes féminines. Puis, tu sais, pour ça, nous, on a une contrainte supplémentaire comparativement aux hommes. Mais c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est facile à gérer. Puis c'est sûr qu'il y a des Sherpas qui ont tenté de prendre avantage de ces situations-là, malheureusement, dans le passé. Fait que je te dirais que c'est pas quelque chose à prendre à la légère, puis c'est sûr que c'est omniprésent dans nos têtes.
Okay.
Chez les filles, j'en ai parlé avec d'autres grimpeuses aussi, females, puis c'est quelque chose, malheureusement, avec quoi on doit gérer. On doit gérer parmi d'autres choses, nos menstruations, plein de choses que les gars...
Ouais.
Il me semble que les gars, ils l'ont facile.
Ouais, hey, non, mais sérieux, je te pose la question, vu que c'est toi qui l'as emmené, OK? Mettons que tu réalises que tu vas être dans ta semaine, cette semaine-là, tu vas-tu... sauter, tu vas-tu aller une autre semaine en montagne? Parce que là, man, j'imagine même pas ma blonde, difficilement monter le Mont Bélair. Fait qu'imagine monter le Macalou, là, ça le fera pas. Est-ce que c'est une contrainte au point de repousser? Est-ce que tu calcules ça?
Honnêtement, dans ma vie, avant, non. Et puis moi, il y a été une période où j'ai été, pendant 2 ans, j'ai pas été menstruée du tout parce que j'ai été, j'ai grimpé de façon trop extrême. Puis c'est comme si le corps, il comprend que de te faire féconder, c'est pas un bon moment en montagne. C'est comme si le corps est tellement focusé sur tes fonctions vitales que le système reproductif, il prend le bord. Fait que moi, si c'était pas été un enjeu, aller jusqu'à tout récemment, la première journée de mes règles est très, très, très douloureuse. Et maintenant, c'est quelque chose que je dois prendre en compte. S'il y a un sommet de push qui concorde avec la première journée de mes règles, je suis dans merde.
Okay.
Parce que ça devient tellement douloureux qu'il y a des chances que je sois obligée de revirer de bord parce que la douleur devient insupportable.
OK. Hey, autre question, parce que tantôt, tu parlais de l'adaptation à l'altitude. Je reviens là-dessus juste un moment. Est-ce que ici au Québec, la technologie vous offre un gear quelconque pour simuler la privation d'oxygène ou la différence de pression atmosphérique? C'est-tu quelque chose que la technologie vous rend possible pour se préparer physiquement sans se rendre?
Bien, au Québec, je suis pas très à l'affût de ce qui se fait dernièrement, s'il y a des centres hypoxiques qui existent comme tels. Je sais qu'il y a des tentes qui existent pour simuler l'effet de l'altitude dans lesquelles tu peux dormir puis augmenter graduellement l'effet de l'altitude, en fait, l'effet simulé de l'altitude pour t'aider à te pré-acclimater.
Okay. Parce
que c'est pas tout le monde qui réagit pareil. C'est pas tout le monde qui a besoin de la même durée, puis ça se peut que tu fasses tout ça, puis que finalement tu arrives en haute altitude, puis que tu te rends compte que sur toi, ça n'a pas bien marché, tu sais. Fait que moi, c'est pas quelque chose que j'ai eu la chance d'essayer encore, mais c'est définitivement quelque chose à quoi je suis ouverte, puis de plus en plus, la recherche pousse là-dedans, puis je me dis, tu sais, s'il y a une possibilité de réduire la période de temps que t'as besoin pour t'acclimater. Moi, je suis toute ouverte puis toute oui pour ça. Je trouve que c'est génial.
Je te ramène à ton expédition au Macalou. T'étais au camp 3, là, la tempête, tout ça. À un moment donné, tu te rends compte que tu vas revirer de bord, que tu te rends pas jusqu'en haut. Comment tu prends cette décision-là? Comment tu deals avec toi-même? Puis est-ce que ça s'est fait facilement? Puis j'ai lu aussi que, dans tes posts sur les réseaux sociaux, t'as dit que tu penses que tu es en train de changer ou peut-être que tu vois les choses autrement. Et tu changes comment? Puis comment tu vois les choses autrement?
Écoute, c'est que moi, pendant tellement d'années, j'ai tellement l'impression qu'il y avait juste les montagnes dans ma vie, qu'il n'y avait pas de place pour rien d'autre que juste les montagnes me consumaient tout entière. Puis... écoute, c'est pas reposant cette affaire-là parce que essaie d'avoir des relations interpersonnelles ou personnelles quand tu passes la moitié de ton année et même plus en montagne, c'est vraiment tough.
Ouais, seul dans une tente avec un sherpa, je peux comprendre.
Exactement. Et puis, il y a un moment donné où je me disais, tu sais, oui, les montagnes, c'est important, ça m'apprend à être une meilleure personne. Mais là, je me suis rendu compte, il y a comme un déclic pendant cette expédition-là, que les montagnes, c'est un outil. Ça devrait être un outil pour, que ce soit pour me donner du boulot, le travail, maintenant c'est mon métier, tout ça, mais aussi un outil vers lequel je vais pour méditer, pour faire la paix avec moi-même, pour un peu un outil thérapeutique. Tu sais, moi, je le dis souvent, c'est ma thérapie, la montagne. Puis là, il y a eu vraiment un déclic pendant cette expédition-là où je me suis dit non. Là, j'ai le choix de redescendre en bas, d'attendre encore 2 semaines pour avoir une autre fenêtre météo, remonter, peut-être faire le sommet, peut-être pas, peut-être aboutir dans un accident, manquer la fête des mères, manquer la fête à mon chum. tout passé mon mois de mai là-bas, passé 2 mois parti encore de la maison quand ça fait déjà 2 mois et demi cet hiver que j'étais partie pour faire des trips. Puis là, je me suis dit non, Marie, t'as grimpé jusqu'au camp 2, ça a été tough, t'as grimpé jusqu'au camp 3, t'as redescendu plein de sections en rappel, t'as trippé ta vie, t'es venu chercher ce que tu voulais, t'es venu prendre ta dose de grimpette. Là, c'est beau, retourne à la maison quand même que t'auras pas fait le sommet, on s'en fout. Tu sais, quand t'es vraiment un amoureux, une amoureuse de la montagne, le sommet devient vraiment accessoire, puis on te le dit. Quand tu commences à faire de la montagne, mais tu comprends pas, tu caches pas vraiment ce que ça veut dire. Sauf que là, je pense que je l'ai vraiment internalisé, ce feeling-là. Puis tout d'un coup, c'est vrai que le sommet, c'était plus si important que ça. J'étais venue voir c'était quoi le Makalu. J'ai grimpé jusqu'à 7600 mètres. J'ai eu ma dose. J'étais là 2 semaines. J'ai trouvé ça assez. Puis je suis partie. Puis j'ai comme eu ce feeling-là de plénitude. Puis de paix à l'intérieur. J'étais comme, you know what? C'est assez, puis c'est correct, puis ça va être ça.
T'as-tu l'impression que ce moment-là va constituer un avant puis un après? Penses-tu que maintenant, ta perception, puis en fait, en sous-question, quels sont tes plans pour la suite? Est-ce que t'as déjà ciblé une autre montagne? Est-ce que tu penses que ça va changer ta perception? Parce que la dernière fois qu'on s'était parlé, puis moi, je retiens ça de tous les alpinistes. Là, quand on parle aussi avec Charles Page,
oui.
Je me dis, tu sais, puis je dis à la blague, oh, Marie-Pierre, Charles Page, là, les deux, ils ont des idées noires, mais ils se l'avouent pas. Là, clairement, t'as l'air d'avoir vaincu tes idées noires. Parce que tu vois le beau de la vie et tu as le goût d'être là à la fête des mères. Fait que ça, chapeau pour ça. Mais la suite, comme alpiniste, ça dit quoi pour toi?
Bien, c'est comme si, tu sais, je commence à avoir fait un peu le tour de ce que je suis capable de faire. Je me suis challengée, je me suis prouvée dans les montagnes. Je veux pas dire que j'ai tout vu, tout connu, tout vécu. Sauf que, tu sais, on dit souvent que avec la maturité, avec l'âge, plus t'avances dans la vie, moins c'est à propos de toi, plus c'est à propos des autres. Puis je pense que je suis vraiment, je reviens souvent à ça. Tu sais, moi, je retiens beaucoup de plaisir puis de satisfaction d'accompagner les autres dans leur propre quête de montagne, les faire grandir là-dedans, puis c'est vraiment là, je pense, où mon enjoyance du moment là est fort, puis je pense que pour la suite, j'ai vraiment, vraiment prioriser ça, focusser là-dessus, continuer de multiplier les accompagnements, d'offrir des trips qui branchent le monde, qui font grandir le monde. Puis, tu sais, je dis pas que je ferai pas d'autres défis pour moi, sauf que j'ai l'impression que je trippe de plus en plus à faire des 6000 que des 8000. Il y a beaucoup de temps d'attente sur les 8000. Le temps de comparaison, tu sais, en grains versus temps d'attente, là, le ratio là est pas mal bas. Je trouve que des trips sur des 6000 de 10 jours, 2 semaines, tu grimpes, tu en as pour ton argent, tu en as pour ton temps. Puis je pense que c'est là, moi, où je commence à tripper de plus en plus. Il y a plein de 6000 un peu partout sur la planète, dans plein de pays, puis j'en envie comme de découvrir des nouvelles destinations puis d'en faire découvrir des endroits un peu plus hors des sentiers battus, si je pourrais dire. Fait que je pense que c'est plus là où je trippe, où je t'excitais, mettons, en ce moment-là. Okay.
Jean-Francis l'a mentionné rapidement, un gars comme Charles Page, là, qui présentement est sur le Kanchenjunga en direction vers le sommet, la montagne que tu as grimpée l'an dernier. Un gars de même qui s'enligne 2 8000 d'affilée puis qui semble très, très, très téméraire. Tu penses quoi de Charles et de ses aventures?
Bien, moi, je le connais. Charles, oui. Il a fait son premier sommet alpin avec moi au Népal il y a quelques années. Et puis, pour l'avoir vu, et on s'est parlé justement à Katmandou récemment, j'ai l'impression qu'il est un peu au moment où moi j'étais il y a plusieurs années. Il est encore au moment où il cherche quelque chose en lui, il y a quelque chose à se prouver, puis c'est correct, c'est tout à son honneur de poursuivre ce chemin-là. Mais je pense que tu sais, il va arriver à un point probablement à une intersection où je suis en ce moment, où il va prioriser d'autres choses peut-être dans sa vie, puis il va choisir de laisser la place à d'autres choses aussi. Puis je trouve que c'est pas un chemin ou des choix qui sont mauvais. Ça fait juste partie, je pense, du processus, puis il faut faire confiance au processus. Puis moi, je pense qu'il va y arriver.
C'est sûr.
Eh bien, écoute, Marie-Pierre, ça a été encore une fois super intéressant de te parler. Moi, je suis pas un connaisseur comme peut l'être Louis, mais je trouve votre volonté à vous, les alpinistes, là, de volonté de dépassement, volonté aussi de façon de voir la vie qui me fascine, vraiment. Là, en fait, même juste d'une plaine où il ne ventre pas, couché tout seul d'une tente avec quelqu'un que je ne connais pas, je ne suis pas bien. Fait qu'imagine en montagne, toute la patente. Moi, je trouve ça fascinant. Puis peu importe où est-ce que tes prochaines aventures vont t'amener, nous autres, on va toujours t'ouvrir la porte pour te jaser. Ça a été, encore une fois, très intéressant, Marie-Pierre. Merci beaucoup.
C'est toujours un plaisir de vous parler. Merci, les gars.
Salut. J'apprécie énormément. Bonne soirée.
All right. Bye-bye.
C'était Marie-Pierre Desharnais, qui est une alpiniste, une femme de défi. Une fille,
qui nous parlait en direct de Los Angeles.
Ah oui, Los Angeles!
Oui,
let's
monsieur.
Go! Let's go! Vis tes rêves. Hein. Vis la vie que...
Oui.
Dans une autre vie, t'es Marie-Pierre Desharnais, toi. On vient de rejoindre deux dimensions, puis en ce moment, dans une autre vie... T'as pas eu tes règles pendant 2 ans parce que tu montais en montagne.
Non, mais laisse-moi le temps, là, puis...
D'avoir tes règles?
Oui, puis de me rendre là. Et un jour, ce sera ma vie.
Ah oui, j'en doute pas. Allez, on fait une courte pause. Le Spacecast est avec vous jusqu'à 22h.
Le Spacecast.
Avec JF Blais et Louis Gauvin.
Radio X.